La Chartreuse de Parme, livre 1, chapitre 9. L'âme de Fabrice était exaltée par les discours du vieillard, par la profonde attention et par l'extrême fatigue. Il eut grand-peine à s'endormir, et son sommeil fut agité de songes, peut-être présage de l'avenir. Le matin, à 10 heures, il fut réveillé par le tremblement général du clocher. Un bruit effroyable semblait venir du dehors. Il se leva éperdu et se crut à la fin du monde. Puis il pensa qu'il était en prison. Il lui fallut du temps pour reconnaître le son de la grosse cloche que 40 paysans mettaient en mouvement en l'honneur du grand Saint Giovita. 10 auraient suffi. Fabrice chercha un endroit convenable pour voir sans être vu. Il s'aperçut que de cette grande hauteur, son regard plongeait sur les jardins, et même sur la cour intérieure du château de son père. Il l'avait oublié. L'idée de ce père arrivant aux bornes de la vie changeait tous ses sentiments. Il distinguait jusqu'au moineau qui cherchait quelques miettes de pain sur le grand balcon de la salle à manger. « Ce sont les descendants de ceux qu'autrefois j'avais apprivoisés, » se dit-il. Ce balcon, comme tous les autres balcons du palais, était chargé d'un grand nombre d'orangers dans des vases de terre plus ou moins grands. Cette vue l'attendrit. L'aspect de cette cour intérieure, ainsi ornée avec ses ombres bien tranchées et marquée par un soleil éclatant, était vraiment grandiose. L'affaiblissement de son père lui revenait à l'esprit. « Mais c'est vraiment singulier, » se disait-il. « Mon père n'a que 35 ans de plus que moi. 35 et 23 ne font que 58. » Ses yeux, fixés sur les fenêtres de la chambre de cet homme sévère et qui ne l'avait jamais aimé, se remplirent de larmes. Il frémit, et un froid soudain courut dans ses veines lorsqu'il crut reconnaître son père traversant une terrasse garnie d'orangers qui se trouvait de plein pied avec sa chambre. Mais ce n'était qu'un valet de chambre. Tout à fait sous le clocher, une quantité de jeunes filles vêtues de blanc et divisées en différentes troupes étaient occupées à tracer des dessins avec des fleurs rouges, bleues et jaunes sur le sol des rues où devait passer la procession. Mais il y avait un spectacle qui parlait plus vivement à l'âme de Fabrice. Du clocher, ses regards plongeaient sur les deux branches du lac à une distance de plusieurs lieues, et cette vue sublime lui fit bientôt oublier tous les autres. Elle réveillait chez lui les sentiments les plus élevés. Tous les souvenirs de son enfance vinrent en foule assiéger sa pensée. Et cette journée passée en prison dans un clocher fut peut-être l'une des plus heureuses de sa vie. Le bonheur le porta à une hauteur de pensée assez étrangère à son caractère. Il considérait les événements de la vie, lui, si jeune, comme si déjà il fût arrivé à sa dernière limite. « Il faut en convenir, depuis mon arrivée à Parme, » se dit-il enfin, après plusieurs heures de rêverie délicieuse, « je n'ai point eu de joie tranquille et parfaite, comme celle que je trouvais à Naples en galopant dans les chemins de Vomero ou en courant les rives de Misène. Tous les intérêts si compliqués de cette petite cour méchante m'ont rendu méchant. Je n'ai point du tout de plaisir à haïr. Je crois même que ce serait un triste bonheur pour moi que celui d'humilier mes ennemis, si j'en avais. Mais je n'ai point d'ennemis. Halte là, se dit-il tout à coup. « J'ai pour ennemi Giletti. » »« Voilà qui est singulier, » se dit-il. « Le plaisir que j'éprouverais à voir cet homme si laid aller à tous les diables survit au goût fort léger que j'avais pour la petite Marietta. Elle ne vaut pas à beaucoup près la duchesse d'A, que j'étais obligé d'aimer à Naples, puisque je lui avais dit que j'étais amoureux d'elle. Grand Dieu! Que de fois je me suis ennuyée durant les longs rendez-vous que m'accordait cette belle duchesse. Jamais rien de pareil dans la petite chambre délabrée et servant de cuisine, où la petite Marietta m'a reçue 2 fois, et pendant 2 minutes chaque fois. Et grand Dieu, qu'est-ce que ces gens-là mangent? C'est à faire pitié. J'aurais dû faire à elle et à la mamachia une pension de 3 beefsteaks payable tous les jours. La petite Marietta, ajouta-t-il, me distrayait des pensées méchantes que me donnait le voisinage de cette cour. J'aurais peut-être bien fait de prendre la vie de café, comme dit la duchesse. Elle semblait penchée de ce côté-là, et elle a bien plus de génie que moi. Grâce à ses bienfaits, ou bien seulement avec cette pension de 4 000 francs et ce fonds de 40 000 placés à Lyon, et que ma mère me destine, j'aurai toujours un cheval et quelques écus pour faire des fouilles et former un cabinet. Puisqu'il semble que je ne dois pas connaître l'amour, ce seront toujours là pour moi les grandes sources de félicité. Je voudrais, avant de mourir, aller revoir le champ de bataille de Waterloo et tâcher de reconnaître la prairie où je fus si gaiement enlevé de mon cheval et assis par terre. Ce pèlerinage accompli, je reviendrai souvent sur ce lac sublime. Rien d'aussi beau ne peut se voir au monde, du moins pour mon cœur. À quoi bon aller si loin chercher le bonheur? Il est là, sous mes yeux. Ah ! Se dit Fabrice, comme objection, la police me chasse du lac de Côme. Mais je suis plus jeune que les gens qui dirigent les coups de cette police. Ici, ajouta-t-il en riant, je ne trouverai point de duchesse d'A. Mais je trouverai une de ces petites filles là-bas qui arrange des fleurs sur le pavé. Et, en vérité, je l'aimerai tout autant. L'hypocrisie me glace, même en amour. Et nos grandes dames visent à des effets trop sublimes. Napoléon leur a donné des idées de mœurs et de constance. Diable ! Se dit-il tout à coup en retirant la tête de la fenêtre. Comme s'il eût craint d'être reconnu malgré l'ombre de l'énorme jalousie de bois qui garantissait les cloches de la pluie. Voici une entrée de gendarmes en grande tenue. En effet, 10 gendarmes, dont 4 sous-officiers, paraissaient dans le haut de la grande rue du village. Le maréchal des logis les distribuait de 100 pas en 100 pas le long du trajet que devait parcourir la procession. Tout le monde me connaît ici. Si l'on me voit, je ne fais qu'un saut des bords du lac de Côme au Spielberg, où l'on m'attachera à chaque jambe une chaîne pesant 110 livres. Et quelle douleur pour la duchesse! Fabrice eut besoin de 2 ou 3 minutes pour se rappeler que d'abord il était placé à plus de 80 pieds d'élévation, que le lieu où il se trouvait était comparativement obscur, que les yeux des gens qui pourraient le regarder étaient frappés par un soleil éclatant, et qu'enfin il se promenait les yeux grands ouverts dans les rues dont toutes les maisons venaient d'être blanchies au lait de chaux en l'honneur de la fête de Sainte Giovita. Malgré des raisonnements si clairs, l'âme italienne de Fabrice eût été désormais hors d'état de goûter aucun plaisir. S'il n'eût interposé entre lui et les gendarmes un lambeau de vieille toile qu'il cloua contre la fenêtre et auquel il fit 2 trous pour les yeux. Les cloches ébranlaient l'air depuis 10 minutes. La procession sortait de l'église, les mortaretti se firent entendre. Fabrice tourna la tête et reconnut cette petite esplanade garnie d'un parapet et dominant le lac, où si souvent dans sa jeunesse, il s'était exposé à voir les mortaretti lui partir entre les jambes, ce qui faisait que le matin des jours de fête, sa mère voulait le voir auprès d'elle. Il faut savoir que les mortaretti, ou petits mortiers, ne sont autre chose que des canons de fusil que l'on scie, de façon à ne leur laisser que 4 pouces de longueur. C'est pour cela que les paysans recueillent avidement les canons de fusil que, depuis 1796, la politique de l'Europe a semé à foison dans les plaines de la Lombardie. Une fois réduits à 4 pouces de longueur, on charge ces petits canons jusqu'à la gueule, on les place à terre dans une position verticale et une traînée de poudre va de l'un à l'autre. Ils sont rangés sur 3 lignes, comme un bataillon, et au nombre de 200 ou 300, dans quelque emplacement voisin du lieu que doit parcourir la procession. Lorsque le Saint-Sacrement approche, on met le feu à la traînée de poudre, et alors commence un feu de fil de coups secs, le plus inégal du monde et le plus ridicule. Les femmes sont ivres de joie. Rien n'est gai comme le bruit de ces mortaretti, entendu de loin sur le lac et adouci par le balancement des eaux. Ce bruit singulier et qui avait fait si souvent la joie de son enfance chassa les idées un peu trop sérieuses dont notre héros était assiégé. Il alla chercher la grande lunette astronomique de l'abbé et reconnut la plupart des hommes et des femmes qui suivaient la procession. Beaucoup de charmantes petites filles que Fabrice avait laissées à l'âge de 11 ou 12 ans étaient maintenant des femmes superbes, dans toute la fleur de la plus vigoureuse jeunesse. Elles firent renaître le courage de notre héros, et pour leur parler, il eut fort bien bravé les gendarmes. La procession passée et rentrée dans l'église par une porte latérale que Fabrice ne pouvait apercevoir, la chaleur devint bientôt extrême, même au haut du clocher. Les habitants rentrèrent chez eux et il se fit un grand silence dans le village. Plusieurs barques se chargèrent de paysans retournant à Bellagio, à Menaggio et autres villages situés sur le lac. Fabrice distinguait le bruit de chaque coup de rame. Ce détail si simple le ravissait en extase. Sa joie actuelle se composait de tout le malheur, de toute la gêne qu'il trouvait dans la vie compliquée des cours. Qu'il eût été heureux en ce moment de faire une lieue sur ce beau lac si tranquille et qui réfléchissait si bien la profondeur des cieux. Il entendit ouvrir la porte d'en bas du clocher. C'était la vieille servante de l'abbé Blanès qui apportait un grand panier. Il eut toutes les peines du monde à s'empêcher de lui parler. « Elle a pour moi presque autant d'amitié que son maître, » se disait-il. « Et d'ailleurs, je pars ce soir à 9 heures. Est-ce qu'elle ne garderait pas le secret qu'elle m'aurait juré seulement pendant quelques heures ?»« Mais, » se dit Fabrice, « je déplairais à mon ami. Je pourrais le compromettre avec les gendarmes. » Et il laissa partir la Guitta sans lui parler. Il fit un excellent dîner, puis s'arrangea pour dormir quelques minutes. Il ne se réveilla qu'à 8h30 du soir. L'abbé Blanès lui secouait le bras, et il était nuit. Blanès était extrêmement fatigué. Il avait 50 ans de plus que la veille. Il ne parla plus de choses sérieuses. Assis sur son fauteuil de bois, « Embrasse-moi, » dit-il à Fabrice. Il le reprit plusieurs fois dans ses bras. « La mort, » dit-il enfin, « qui va terminer cette vie si longue, n'aura rien d'aussi pénible que cette séparation. J'ai une bourse que je laisserai en dépôt à la Guitta, avec ordre d'y puiser pour ses besoins, mais de te remettre ce qui restera si jamais tu viens le demander. Je la connais. Après cette recommandation, elle est capable, par économie pour toi, de ne pas acheter de la viande 4 fois par an, si tu ne lui donnes des ordres bien précis. Tu peux toi-même être réduit à la misère, et l'obole du vieil ami te servira. N'attends rien de ton frère que des procédés atroces, et tâche de gagner de l'argent par un travail qui te rende utile à la société. Je prévois des orages étranges. Peut-être dans 50 ans ne voudra-t-on plus d'oisifs. Ta mère et ta tante peuvent te manquer. Tes sœurs devront obéir à leur mari. Va-t'en, va-t'en, fuis ! S'écria Blanès avec empressement. Il venait d'entendre un petit bruit dans l'horloge qui annonçait que 10 heures allaient sonner. Il ne voulut pas même permettre à Fabrice de l'embrasser une dernière fois. « Dépêche ! Dépêche ! » lui cria-t-il. Tu mettras au moins 1 minute à descendre l'escalier. Prends garde de tomber. Ce serait d'un affreux présage. » Fabrice se précipita dans l'escalier et, arrivé sur la place, se mit à courir. Il était à peine arrivé devant le château de son père que la cloche sonna 10 heures. Chaque coup retentissait dans sa poitrine et y portait un trouble singulier. Il s'arrêta pour réfléchir. ou plutôt pour se livrer au sentiment passionné que lui inspirait la contemplation de cet édifice majestueux qu'il jugeait si froidement la veille. Au milieu de sa rêverie, des pas d'homme vinrent le réveiller. Il regarda et se vit au milieu de 4 gendarmes. Il avait 2 excellents pistolets dont il venait de renouveler les amorces en dînant. Le petit bruit qu'il fit en les armant attira l'attention d'un des gendarmes et fut sur le point de le faire arrêter. Il s'aperçut du danger qu'il courait et pensa à faire feu le premier. C'était son droit, car c'était la seule manière qu'il eut de résister à 4 hommes bien armés. Par bonheur, les gendarmes, qui circulaient pour faire évacuer les cabarets, ne s'étaient point montrés tout à fait insensibles aux politesses qu'ils avaient reçues dans plusieurs de ces lieux aimables. Ils ne se décidèrent pas assez rapidement à faire leur devoir. Fabrice prit la fuite en courant à toutes jambes. Les gendarmes firent quelques pas en courant aussi et criant « Arrête ! Arrête !» Puis tout rentra dans le silence. À 300 pas de là, Fabrice s'arrêta pour reprendre haleine. « Le bruit de mes pistolets a failli me faire prendre. C'est bien pour le coup que la duchesse m'eût dit, si jamais il m'eût été donné de revoir ses beaux yeux, que mon âme trouve du plaisir à contempler ce qui arrivera dans 10 ans et oublie de regarder ce qui se passe actuellement à mes côtés. » Fabrice frémit en pensant au danger qu'il venait d'éviter. Il doubla le pas, mais bientôt il ne put s'empêcher de courir, ce qui n'était pas trop prudent, car il se fit remarquer de plusieurs paysans qui regagnaient leur logis. Il ne put prendre sur lui de s'arrêter que dans la montagne, à plus d'une lieue de Grianta. Et, même arrêté, il eut une sueur froide en pensant au Spielberg. « Voilà une belle peur !» se dit-il. En entendant le son de ce mot, il fut presque tenté d'avoir honte. « Mais ma tante, ne me dit-elle pas que la chose dont j'ai le plus besoin, c'est d'apprendre à me pardonner ? Je me compare toujours à un modèle parfait et qui ne peut exister. Eh bien, je me pardonne ma peur, car d'un autre côté, j'étais bien disposée à défendre ma liberté. » Et certainement tous les 4 ne seraient pas restés debout pour me conduire en prison. « Ce que je fais dans ce moment, ajouta-t-il, n'est pas militaire. Au lieu de me retirer rapidement après avoir rempli mon objet et peut-être donné l'éveil à mes ennemis, je m'amuse à une fantaisie plus ridicule peut-être que toutes les prédictions du bon abbé. » En effet, au lieu de se retirer par la ligne la plus courte, et de gagner les bords du lac majeur, où sa barque l'attendait, il faisait un énorme détour pour aller voir son arbre. Le lecteur se souvient peut-être de l'amour que Fabrice portait à un marronnier, planté par sa mère 23 ans auparavant. « Il serait digne de mon frère, se dit-il, d'avoir fait couper cet arbre. Mais ces êtres-là ne sentent pas les choses délicates, il n'y aura pas songé. » Et d'ailleurs, ce ne serait pas d'un mauvais augure, ajouta-t-il avec fermeté. 2 heures plus tard, son regard fut consterné. Des méchants ou un orage avaient rompu l'une des principales branches du jeune arbre qui pendait desséché. Fabrice la coupa avec respect à l'aide de son poignard et tailla bien net la coupure afin que l'eau ne pût pas s'introduire dans le tronc. Ensuite, quoique le temps fût bien précieux pour lui, car le jour allait paraître, il passa une bonne heure à bêcher la terre autour de l'arbre chéri. Toutes ses folies accomplies, il reprit rapidement la route du lac majeur. Au total, il n'était point triste. L'arbre était d'une belle venue, plus vigoureux que jamais, et en 5 ans, il avait presque doublé. La branche n'était qu'un accident sans conséquence. Une fois coupée, elle ne nuisait plus à l'arbre, et même il serait plus élancé, sa membrure commençant plus haut. Fabrice n'avait pas fait une lieue qu'une bande éclatante de blancheur dessinait à l'orient les pics du Résegondilec, montagne célèbre dans le pays. La route qu'il suivait se couvrait de paysans, mais Au lieu d'avoir des idées militaires, Fabrice se laissait attendrir par les aspects sublimes ou touchants de ces forêts des environs du lac de Côme. Ce sont peut-être les plus belles du monde. Je ne veux pas dire celles qui rendent le plus d'écu neuf, comme on dirait en Suisse, mais celles qui parlent le plus à l'âme. Écoutez ce langage dans la position où se trouvait Fabrice, en butte aux attentions de messieurs les gendarmes lombardo-vénitiens. C'était un véritable enfantillage. « Je suis à une demi-lieue de la frontière, » se dit-il enfin. « Je vais rencontrer des douaniers et des gendarmes faisant leur ronde au matin. Cet habit de drap fin va leur être suspect. Ils vont me demander mon passeport. » Or, ce passeport porte en toutes lettres un nom promis à la prison. Me voici dans l'agréable nécessité de commettre un meurtre. Si, comme de coutume, les gendarmes marchent deux ensemble, je ne puis pas attendre bonnement pour faire feu que l'un des deux cherche à me prendre au collet. Pour peu qu'en tombant il me retienne un instant, me voilà au Spielberg. Fabrice, saisi d'horreur, surtout de cette nécessité de faire feu le premier, peut-être sur un ancien soldat de son oncle, le comte Pietranera, courut se cacher dans le tronc creux d'un énorme châtaignier. Il renouvelait l'amorce de ses pistolets lorsqu'il entendit un homme qui s'avançait dans les bois en chantant très bien un air délicieux de Mercadante, alors à la mode en Lombardie. Voilà qui est d'un bon augure, se dit Fabrice. Cet air qu'il écoutait religieusement lui ôta la petite pointe de colère qui commençait à se mêler à ses raisonnements. Il regarda attentivement la grande route des deux côtés. Il n'y vit personne. Le chanteur arrivera par quelque chemin de traverse, se dit-il. Presque au même instant, il vit un valet de chambre, très proprement vêtu à l'anglaise, et monté sur un cheval de suite, qui s'avançait au petit pas, en tenant en main un beau cheval de race, peut-être un peu trop maigre. Ah, si je raisonnais comme Mosca, se dit Fabrice. Lorsqu'il me répète que les dangers que court un homme sont toujours la mesure de ses droits sur le voisin, je casserai la tête d'un coup de pistolet à ce valet de chambre. Et, une fois monté sur le cheval maigre, je me moquerai fort de tous les gendarmes du monde. À peine de retour à Parme, j'enverrai de l'argent à cet homme, ou à sa veuve. Mais ce serait une horreur.